La coiffeuse aux accents de non-sens, de l'innocence. Toujours ce petit jeu de mots qui démarre cette émission étrange, née suite à l'initiative de Milana Volodchenko, la cofondatrice du festival Blues en Aveyron et la créatrice du parfum Gentiane Caviar d'Aubrac. Posez vos affaires, détendez-vous, mettez-vous à l'aise devant la coiffeuse aux accents, redoutablement installée au milieu de notre studio d'enregistrement. Elle est là pour vous guider dans votre vie. Son nom de l'émission, ambigu et étrange, la coiffeuse aux accents, a pour but réveiller vos esprits et vous amener vers d'autres plateaux de votre conscience, si vous voulez bien nous suivre. Cachez vos peignes, nous ne sommes pas là pour être beaux, nous sommes ici pour être vrais. Je vous invite donc à vous décoiffer soigneusement et aller à l'essentiel, vers la magie de nos sens. Olfactif, auditif, gustatif, visuel, tactile et celui sixième, si recherché et espéré. La magie de chaque accent de ce meuble démarre par le bout du nez. À chacun ses secrets, ses émotions et ses souvenirs que l'on respire, qu'on retient et qu'on place dans les tiroirs de notre âme. Le nez, c'est notre premier cerveau. Ouvrir le nez, c'est donner l'accès à tous nos sens, y compris le sixième, le fameux chemin vers la volupté intérieure et inavouée. Cela arrive le plus souvent quand on ne s'y attend pas. On croise la d'aventure d'un fleuriste au printemps et soudain, une bouffée de jonquille nous ramène à notre enfance, un certain jour de Pâques ou de Noël. Si le fleuriste a astucieusement su intégrer quelques branches de sapin dans les jonquilles. Enfin, une gousse de vanille, on se souvient du baiser maternel, tout embaumé de ces fragrances inoubliables qui vont nous poursuivre ensuite, toute notre vie. Seuls les miroirs de notre enfance, les armoires de nos grandes-mères, les porte-manteaux de nos grands-parents s'en souviennent. Cette émission célèbre la littérature et la musique et ouvre donc le tiroir littéraire et musical. Les invités du jour, Fabrice Soulery, le pianiste prodigue au parcours atypique que nous entendons régulièrement sur les ondes de la CFM Radio Rodez depuis la création de l'émission. Et Louis Mercadier, originaire du Nord d'Aveyron, membre de la Société des Lettres, Sciences et l'Art de l'Aveyron, l'auteur de plusieurs monographies, le conférencier qui a obtenu plusieurs prix littéraires, dont les romans Un bilis des étagères d'une boutique fabuleuse nichée dans des ruelles de Sainte-Eulalie d'Olt. Bonjour à Louis, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Mélina.
Parlez-nous de vous, de votre parcours, de vos livres et révélez-nous le rapport invisible entre le livre et la musique.
Eh bien c'est un rapport quand même assez étroit finalement, parce que quand on lit, on n'est pas loin de la musique. D'ailleurs les partitions, c'est une écriture.
Hein,
Il faut absolument la sortir de la tête, l'écrire. C'est un peu pareil, finalement.
Et vos œuvres, alors ? Est-ce que parmi les œuvres que vous avez écrites, il y a une inspiration musicale quelconque ?
Pas nécessairement, même si parfois je parle de chants d'autrefois qui ont pu exister dans l'histoire du terroir, ou dans l'histoire de mes romans, ou des moments monographiques aussi, qui sont à étudier. Ceci étant, je voudrais faire un petit clin d'œil à Milana sur le parfum, parce qu'il y a quelques années, c'était en 1997, j'ai déjà écrit un livre sur la fraise de Saint-Geniès, cette fraise qui embaumait littéralement la vallée et la ville. Parce qu'autrefois, quand même, on sortait jusqu'à 50 tonnes de fraises par jour dans cette petite vallée des bords du Lot. Et c'est vrai que ce parfum, beaucoup de gens l'ont en tête. Un parfum inoubliable, fabuleux, au sein de la vieille ville. Eh bien, on avait l'impression d'avoir le nez au bord d'un chaudron de confiture. Et je fais justement une petite allusion au parfum de Milana, qui est vraiment remarquable, ce fameux caviar d'Aveyron dont elle parle. et on pourrait faire un lien justement avec avec son parfum, donc qui est issu quand même de l'Aubrac. À partir de là, je voudrais dire qu'il y a eu tellement de fraises qu'on en a envoyé à Grasse pour le parfum, et son parfum, d'après ce que j'ai pu comprendre, est fabriqué à Grasse, n'est-ce pas ? Mais on en a envoyé aussi à Paris, à côté de Paris, à Bois-Colombes, où ces fraises étaient envoyées aux États-Unis, traitées chimiquement d'abord, envoyées aux États-Unis, pour fabriquer ce fameux rouge baiser, un rouge qui tenait le coup. On pouvait embrasser d'ailleurs du matin au soir, il tenait le coup et il ne marquait pas sur les chemises blanches.
Quelle magnifique histoire, et je suis très étonnée que finalement vous percutez sur mon histoire personnelle. Je suis très flattée, Louis, mais il était essentiellement convenu de rendre hommage à vous, à vos œuvres à travers cette émission. Et puis, je vous remercie beaucoup pour ce que vous venez de dire concernant mes créations. Mais effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de découvrir cette belle histoire de la fraise de Saint-Géniès. Et à un moment donné, je me disais qu'un parfum à la base de la fraise qui pourra rendre hommage à l'histoire de Saint-Géniès, et notamment la grande dame qui domine la colline, la Marie Talabot, dont vous avez un ouvrage absolument remarquable, ce serait peut-être une bonne idée. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Marie Talabot et livre aussi ?
Oui, effectivement. Juste avant de vous parler de Marie Talabot, je voudrais simplement dire que mon dernier ouvrage concerne, qui s'appelle « Pour ma sœur », concerne les bébés volés en Espagne au lendemain de la guerre franquiste, c'est-à-dire à partir de 1939. Et cela a perduré jusqu'en 1996. Peu de gens connaissent cette affaire-là. Mais je voudrais vous dire que dans cette période, il y avait évidemment la période des fraises, qui a perduré un siècle et qui a terminé, on va dire, dans les années 1975. À ce moment-là, dans cet ouvrage qui s'appelle « Pour ma sœur », je développe assez longuement quand même la culture de la fraise dans cette période où l'on en sortait beaucoup, on va dire, parce que l'on fabriquait à ce moment-là à Saint-Géniès-d'Olt des paniers pour accueillir ce fruit magique. Et voyez, dans cette même période, on va dire dans les années 60-70, ce n'est pas si vieux que ça, il y avait en France 7 fabricants d'emballages légers bois. Et bien sur les 7, il y en avait 4 à Saint-Géniès-d'Olt qui fabriquaient quelques 25 millions de paniers et quelques 7 millions de cajots pour accueillir justement ce fruit. Donc c'est pour vous dire l'importance de cette histoire qui a vraiment classifié cette ville de cité des fraises. D'autre part, c'est dans cette cité justement que nous avons justement ce que venait de dire à l'instant Milana, et bien la fameuse Marie Talabot, une fille exceptionnelle dont j'ai consacré une biographie, qui est née dans une famille très pauvre et qui a su atteindre les marches des plus grands. Cette fille-là n'a pas connu, on va dire, la période des fraises, parce qu'elle est morte juste avant, on va dire. Hein. Mais il y avait un début là, de plantation à cette époque. Ceci étant, Marie-Anne Savy est née en 1822 à côté de Saint-Géniès-d'Olt. Et aujourd'hui, son tombeau, son mausolée, on va dire, parce qu'elle est dessous, domine la cité entière. Et c'est vrai que cette fille qui est partie de rien a connu l'orphelinat, elle a connu l'histoire des enfants pauvres, des petits, qui allaient travailler à l'usine et qui gagnaient 20 centimes pour 14 heures de travail par jour. Ça a été une épopée fabuleuse, mais qu'elle a vécue, elle, peut-être douloureusement. Et à 15 ans, elle est partie en sabots à Marseille, ne parlant guère que patois, faire la bonne à tout faire dans la famille Freycinet, une grande famille d'armateurs marseillais. C'est là-bas qu'elle a rencontré Paulin Talabot, ingénieur polytechnicien, qui mettait en route les premiers chemins de fer en France. C'est lui qui a créé le fameux PLM, c'est-à-dire le Paris-Lyon-Méditerranée, comme chemin de fer. Et les deux personnages se sont rencontrés, ils sont devenus amants et maîtresses, malgré la différence d'âge. Elle était mineure, lui avait 23 ans de plus. Ils sont partis à Paris, rue de Rivoli, elle s'est mise à tenir salon. Et dans ces salons, vous voyez, c'est là où je fais un petit clin d'œil de nouveau à la musique, c'est qu'elle va rencontrer des gens de haut niveau, des gens qui ont participé à la vie, effectivement, de la France, comme Haussmann, évidemment, mais aussi Juliette Adam, qui était une grande salonnière, mais également Georges Sand, Gustave Flaubert, Louise Collet, etc. Et elle va rencontrer aussi César Franck qui a été un grand pianiste et qui certainement serait très heureux aujourd'hui d'écouter le talent et puis la musique de notre ami Fabrice qui va vous parler tout à l'heure. Et César Franck donnait d'ailleurs des cours de piano à Marie-Anne Savy qui est devenue par la suite la prestigieuse Marie Talabot. Aujourd'hui, le mausolée de cette dame domine la ville de Saint-Geniès, c'est quand même un mausolée important. Il fait quand même 13 mètres de haut, 110 tonnes. Elle est dessous, elle est dans un triple cercueil et embaumée. Mais elle domine toujours la cité des fraises.
Et il y a une fameuse phrase, vu qu'on lui a jeté beaucoup des pierres, et elle disait une phrase absolument magnifique. « Si vous ne voulez pas de moi, de mon vivant, je vous dominerai après ma mort. »
Eh oui, parce que cette...
Est-ce que je l'ai bien dit, la phrase?
Oui, c'est bien ça, effectivement. Cette Marie-Anne de Savy, lorsqu'elle était venue à Saint-Geniès, parce qu'elle venait de temps en temps, on l'avait un peu... Elle vivait avec quelqu'un sans être mariée, ce qui était tout
mais
à fait
très
anormal
mal
dans ce 19e siècle, qui a été très phallocrate et anti-féministe au possible. Eh bien, elle aurait répondu aux insultes qu'on lui avait adressé, vous ne voulez pas me voir vivante, eh bien je vous dominerai après ma mort. Mais
c'est
elle
bien
avait
dit
aussi, oui c'est joli aussi.
C'est ce qu'on peut lire sur le mausolée d'ailleurs.
Non, sur le mausolée ce n'est pas inscrit, c'est inscrit sur des plaques qui informent la population, mais il n'y a pas ça sur le mausolée.
C'est inscrit à côté alors.
C'est inscrit à côté.
Il me semble l'avoir lu à Saint-Geniès.
Oui, absolument.
Et c'est sur ça que portent vos conférences, vos nombreuses conférences que vous faites dans l'Aveyron et un peu partout en France. Est-ce que vous avez des conférences qui sont prévues dans pas longtemps, prochainement?
Oui, effectivement, j'en donne assez fréquemment d'ailleurs à Saint-Geniès-d'Olt, mais j'en donne aussi à Rodez, dans tout l'Aveyron. Et c'est vrai que je vais en donner une bientôt à Aguesac, ce sera le mardi 23, donc mardi prochain, sur la naissance du féminisme, ce sera à la salle des fêtes, à 20h le soir. Je vais en donner une autre aussi, mais c'est sur un autre plan, celle-ci, parce que j'ai plusieurs thèmes de conférences. Celle-ci s'intitulera la place de la femme durant la Première Guerre mondiale. Voyez, il faut, je pense, quand même défendre les femmes, il faut les aimer, il faut les protéger. Et c'est vrai qu'elles en ont bien besoin, et ce n'est pas parce que nous sommes en 1921 maintenant que les choses sont réglées. Donc
en 2021.
Il faut être quand même près d'elles. Et je vais en donner une, donc, sur la place de la femme durant la Première Guerre mondiale, à Nusvaladi, le vendredi 26, n'est-ce pas, à la salle des fêtes de Nusvaladi.
Louis Mercadier, vous êtes un puits de science, parce que vous avez réussi, en très peu de temps, à nous parler des franquistes de Franco et des franquistes de César Franck. Les émules de César Franck, on les a appelés également les franquistes.
Et heureusement que les gens comme vous existent encore. Et dites-nous, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut trouver vos livres?
Alors, mes livres, on les trouve partout. Hein, on les trouve dans toutes les bibliothèques, les librairies de l'Aveyron, partout. Mais aussi, on peut les trouver sur Internet. On peut même les télécharger. Tout se fait avec mes bouquins. C'est les éditions de Boré qui sont à Clermont-Ferrand, qui publient mes ouvrages. Voilà, c'est tout.
Non, c'est formidable. Mais... Avec vous, ça part dans tous les sens, on est gâtés.
Ah ben.
Formidable. Fabrice, si je peux me permettre, ce serait à votre tour de nous livrer les correspondances entre la musique et la littérature, si vous voulez bien.
Ah oui, alors on peut parler effectivement de ce qui a inspiré la littérature. Par exemple, Novecento, qui est très connu à cause du film, mais au départ, il s'agit d'un livre d'Alessandro Baricco. Tout le monde connaît donc cette histoire du pianiste qui a passé sa vie entière sur un paquebot. Et puis également Wunderkind. Alors ça, c'est un livre de Nikolai Grozny, c'est un livre des années 80, je crois. Et donc, ça, c'est l'histoire d'un pianiste avant la chute du mur à Sofia, qui est dans le système soviétique, confronté à la puissance créatrice de la musique. Et puis la contrebasse, des contrabasses, alors ça c'est du théâtre. Donc évidemment, la musique a beaucoup inspiré la littérature, mais ça a également fonctionné dans l'autre sens.
Et d'ailleurs, quand vous avez dit le contrebasse, c'est une petite parenthèse aussi, parce que l'auteur de contrebasse est Patrick Susskind, qui, avant d'écrire contrebasse, a écrit le fameux livre Le Parfum.
Ah, ça j'ignorais, oui.
Qui a fait un scoop mondial à un moment donné. Mais il s'agit d'un monologue d'un contrebassiste tout à tour chantant d'amour et réprimande pour ce formidable instrument en forme féminine et à l'encombrement maximal.
Oui, ça date des années 80 aussi, la contrebasse, oui.
Tout à fait. Alors, et il me semble bien que depuis plus de 25 ans, vous écriviez un livre qui n'a jamais été édité, Fabrice.
Oui, alors moi aussi, j'ai oublié de le citer, c'est vrai, mais la musique m'a inspiré de l'écriture, et donc je suis l'auteur d'une autobiographie que je n'ai pas terminée, puisque en réalité, je compte vivre encore un petit peu.
Mais est-ce que vous comptez le terminer quand même un jour ?
Il faudrait que je m'arrête parce que j'ai toujours du retard par rapport à moi-même. J'ai toujours 20 ans de retard.
Dans tout, peut-être même.
Donc, il faudrait faire plusieurs tomes. Mais je peux vous lire un extrait, si vous voulez.
Bah, ce serait bien.
J'ai amené un...
Ça s'appelle comment, déjà ?
Ça s'appelle Profession pianiste. Donc, ça commence à la fin des années 70 et pour le moment, ça se termine dans les années 90 parce que je n'ai pas fini, comme je vous l'ai dit. Je pense qu'il faudrait que je m'arrête déjà, que je publie, disons, les 20-30 premières années. Voilà, parce que sinon, ça va se terminer en une symphonie inachevée. Alors, je vais vous lire un extrait qui se déroule en 1994. Nous allons jouer le 25 juillet à Tillac, près de Marcillac. C'est une retombée du festival. Nous prenons l'avion à 10h à Orly pour Tarbes, m'annonça Philippe de Pressac, tout fier. Je pressentais une galère, comme j'en avais maintenant l'habitude, avec ce trio de choc, auquel Philippe de Pressac adjoint le trompettiste Michel Bonnet pour l'occasion. Lorsque j'arrivais à Tillac, notre podium était installé pour le début de soirée sur la place du village, trompeusement paisible, où, pour l'instant, tournaient deux manèges pour enfants. Dans sa maison, au bord de la place, le maire de Tillac, un gentilhomme, nous ayant offert un goûter arrosé dont mes deux collègues n'avaient déjà que trop abusé, n'attendait de nous qu'une simple animation. La place était vide de chaises. C'est seulement de l'autre côté qu'une buvette casse-croûte accueillait les passants dont seulement certains jetèrent un coup d'œil distrait sur l'élément du décor visuel ou sonore que nous proposions. Nous fîmes donc notre travail bravement dans l'indifférence prévisible de la foule lointaine et déjà éméchée. Personne ne nous aurait même remarqué si Philippe de Pressac ne s'était pas cru obligé d'en rajouter au micro. Voilà, notre concert est terminé. Nous vous remercions de votre écoute, même si il semble que cela ne vous a pas beaucoup plu. Nous en excusons. À bientôt. Suite à ce concert sans intérêt et cette auto-humiliation, je souhaitais vite oublier cette journée, prendre mes sous et me tirer. Mais boire un coup avec le maire faisait partie du contrat, m'avait signifié Philippe. Le bar de plein air, les saucisses, la chaleur du soir étaient après tout gage d'un meilleur moment. Pourquoi ne pas en profiter ? Mais nous étions encore en train de descendre de scène que je compris que rien n'irait. Entendant une sono agressive, c'était celle de la Renault d'une bande de quatre troubles fêtes du village d'à côté venue provoquer la castagne. Malgaré, juste derrière la scène, bruyant et vulgaire, tout chez eux me semblait augurer d'une suite tout aussi ostentatoire. L'un d'eux commença à chercher des poux à Michel Bonnet. « Tu as un canotier de pédé, toi !» J'intervenais gentiment en expliquant que nous étions l'orchestre et ne venions pas du village. C'est surtout cela qui eut l'air de le calmer. Pendant ce temps, les trois autres s'en prirent à deux jumeaux, en Bermuda et béret basque. Il y eut une première incartade et le maire intervint en payant un coup. Bon, je saute un passage. Vous avez deviné que la bagarre a fini par être déclenchée et que c'est le village qui a pris le dessus sur les quatre provocateurs du village d'à côté. Donc c'est le village de Tilla qui est en train de prendre le dessus. Pendant que les quatre affreux reculaient, peu à peu poussés par le pacte tillacois, un des deux jumeaux, d'un geste emphatique, dominant le brouhaha dégueulante, prononça la phrase historique de la soirée. « On est à Tillac ici !» Dans un flot d'insultes réciproques, les coups de poing fusaient et l'échauffouré s'intensifia jusqu'au point où nos quatre affreux, pressés par le nombre et commençant à perdre du terrain, je vis depuis la scène un raz-de-marée les balayer, comme si tous les Tillacois avaient soudain tous compris en même temps que groupés, ils auraient le dessus. La copine du clarinettiste, encore plus convaincue de son pouvoir sur les hommes lorsqu'elle avait un coup dans le nez, tenta de s'interposer sans que personne ne la remarque. Même les tables et les chaises qui volaient ne lui prêtèrent aucune attention, en épargnant miraculeusement son visage aviné. Je vis un des quatre affreux ramper jusqu'à la R5 en tenant ses côtes fêlées. Une patte raide, les autres saignaient. Ils montèrent comme ils purent dans leur carcasse puante et démarrèrent en trombe sous les coups de la foule. La place était un champ de bataille, tables et chaises cassées, verres brisés.
Est-ce que ce genre de passage, ça vous rappelle les traditions locales, plus ou moins?
Ça arrive souvent. Absolument, ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui plaît aux gens. Hein.
Oui, il y a un côté Astérix. Oui,
ce côté de bagarre là, il est utile. Hein.
J'ai oublié de préciser que ça fait peut-être aussi partie des traditions que vous avez remarquées, qu'en partant ils ont promis de revenir avec la carabine, évidemment.
Eh bien voilà. Oh, ils ne revenaient pas nécessairement avec la carabine, mais plutôt avec les poings.
Et selon votre expérience, en général, qu'est-ce qu'il faut pour attirer des éditeurs quand on écrit un livre? Et comment vous y êtes arrivé?
C'est peut-être pas moi-même. J'avais commencé tout simplement au départ dans les monographies historiques à écrire et puis à publier à compte d'auteur. Ceci étant, ça va très bien pour ces monographies historiques parce que c'est local. Mais ceci étant, mon histoire a plu. Et puis il suffit de... Sinon, on peut retrouver un éditeur, mais un éditeur, chercher l'éditeur qui va s'intéresser au thème que vous allez présenter. À savoir, par exemple, un éditeur qui va s'intéresser à des livres d'histoire, il faut lui présenter des documents qui peuvent aller dans son créneau. Si vous faites quelque chose dans la biographie, il y a des éditeurs qui vont s'occuper de ça justement parce que c'est une biographie. D'autres vont s'intéresser parce que vous faites quelque chose sur les plantes, par exemple. Ça rentre dans leur créneau. Il faut trouver déjà l'éditeur à ce niveau-là.
Et vous pouvez citer quelques éditeurs spécialisés?
Je connais évidemment Deboré qui sont surtout intéressés par les documents issus du terroir. Ça les intéresse, vous voyez, de ce côté-là. Après, il y a comme France Empire qui peut s'intéresser à des documents relatifs à l'histoire. Vous voyez, il y en a d'autres qui sont un peu polyvalents, on va dire, dans ce domaine-là. C'est à voir, c'est un peu le nez qui va choisir là-dedans.
C'est à voir, comme vous dites. Et Fabrice, pour terminer, si je peux me permettre, est-ce que vous avez les musiques de votre répertoire qui sont inspirées de livres?
Alors comme c'est bientôt d'actualité, je pourrais effectivement répondre que le livre qui m'a inspiré quelques compositions autour de Noël, c'est le Nouveau Testament. J'ai composé quelques pièces pour piano autour de Noël, notamment un morceau qui s'appelle Noël à Mossoul, au moment où les chrétiens d'Orient étaient encore plus menacés que maintenant, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 ans.
Et d'ailleurs, il me semble que dans pas longtemps, un récital de Noël qui est prévu à l'église de Mur de Barrès, et il me semble que c'est le 4 décembre à 20h30.
Voilà, merci de l'annoncer.
Donc notez dans vos agendas un récital de Noël qui va tourner en swing les airs traditionnels de Noël le 4 décembre à l'église de Mur de Barrès, et ce récital est prévu au profit du Téléthon.
Donc, dans les autres œuvres littéraires, il y a également Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, et le livre Gentleman Cambrioleur m'a inspiré à un morceau qui s'appelle L'Hypocrisie.
Et qu'on trouve sur un de vos disques. Et
que nous allons écouter, oui, qui est sur Promenade dans Paris. Ce morceau très court que j'ai composé donc évoque pour moi cette ambiance des salons parisiens, cette ambiance mondaine de 1900, de la belle époque, dans laquelle Arsène Lupin était comme un poisson dans l'eau. Donc je conseille évidemment la lecture de ces grands classiques de Maurice Leblanc, toute son œuvre, tous les Arsène Lupin, il n'y a absolument rien à jeter dans son intégrale. Et les romans qu'il a écrits par ailleurs, comme L'éclat d'obus ou bien Le formidable événement, dans lesquels d'ailleurs il fait parfois apparaître Arsène Lupin, l'espace d'une page.
Très bien. Vous y adhérez, Louis ?
Absolument, absolument.
Bon, et sur ces belles notes, des belles notes d'hypocrisie finalement, que nous allons terminer notre émission de novembre. Je vous remercie Fabrice, je vous remercie Louis, merci beaucoup David à la technique. Et on se trouve le mois prochain. À bientôt.